France Culture.
Jeudi dernier, deux jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture, la loi d'orientation agricole a été adoptée après une année de discussion destinée à apporter une réponse à la colère des agriculteurs. Cette loi met en priorité la souveraineté alimentaire française. De leur côté, des partis de gauche et des associations écologistes condamnent une volonté productiviste et craignent un recul de la protection de l'environnement. Alors face aux défis écologiques, géopolitiques et sanitaires, une autosuffisance alimentaire était possible et même souhaitable. Les agriculteurs français peuvent-ils en même temps exporter et nous nourrir? Pour en débattre, deux invités ce soir. Julien Rouget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éleveur charolais et viticulteur en Charente-Maritime. Vous êtes par ailleurs vice-président des JA, les jeunes agriculteurs. Face à vous, Tanguy Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du mouvement citoyen Terre de Liens. Merci beaucoup à tous les deux d'être ce soir dans Question du Soir.
On a rencontré avec toutes les organisations agricoles un climat très positif.
C'est scandaleux, tous les rapports scientifiques vous le disent, c'est scandaleux, je parle pas. On vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais, vous ne les tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas.
Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, on en est loin, on a à résoudre les problèmes des prix, du revenu, qui est le problème le plus important.
En un an. La situation de la majorité des paysannes, des paysans, des filières s'est dégradée. Pour des raisons climatiques, sanitaires, par manque de revenus.
On a les meilleures terres du monde, on a des super agriculteurs, on a de l'eau, on a le climat, on a tout ce qu'il faut. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne nous laisse pas produire.
Emmanuel Macron, en multipliant les accords de libre-échange, en remettant notre souveraineté alimentaire entre les mains des écologistes à Bruxelles et de la politique du pacte vert, qui est une politique de décroissance agricole, remet en cause aujourd'hui la souveraineté alimentaire de la France. Donc moi, je suis aux côtés de nos agriculteurs et je viens leur dire que sans eux, il n'y a pas de nation française en réalité.
Le salon d'agriculture, c'est pas simplement des selfies, des caméras et des photos sympathiques. C'est d'abord des discussions droit dans les yeux avec des agriculteurs qui sont, je le rappelle, en crise.
Succession de voix et de prises de position au salon de l'agriculture et je voudrais vous faire réagir sur cet événement lui-même, hein, Julien Rougy. Est-ce que pour vous c'est une grande messe de communication où paradent les responsables politiques et les états-majors syndicaux de tous bords ou bien est-ce que c'est un vrai moment d'union nationale et de réflexion autour de la priorité agricole?
Ce salon de l'agriculture, pour nous, c'est avant tout l'occasion de pouvoir parler d'agriculture. Et on pourrait dire que c'est une grande messe dans le sens où on a l'ensemble des partis politiques, des représentations, des organisations qui viennent à cet événement. Mais nous, on le voit plutôt comme une véritable occasion de pouvoir échanger dans un temps très court avec toute la représentation politique, syndicale et aussi l'ensemble des représentations des collectivités et de nos partenaires agricoles. Donc c'est un vrai moment d'échange pour nous, syndicats, où on peut vraiment rencontrer tout le monde dans un temps très court et aborder beaucoup de sujets. Et en même temps, c'est un temps important pour nos adhérents qui sont dans certains des halls et qui viennent faire la promotion de ce qu'ils produisent au quotidien auprès du grand public.
Tanguy Martin, vous êtes d'accord? C'est un moment de réflexion ou alors la réflexion sur l'agriculture, ça mériterait que ce soit toute l'année?
Alors, les deux, évidemment. Non, le salon, c'est effectivement c'est un moment important. C'est le moment où on parle d'agriculture. Et d'ailleurs, si on est là ce soir, et si vous invitez ce soir et pas dans une semaine, dans un mois, mm-hmm. ou dans six mois, c'est aussi parce que c'est le moment où on parle d'agriculture quand il n'y a pas d'actualité brûlante. Et même quand il y a de l'actualité brûlante, c'est ce moment-là où on discute. Mais j'ai rien à retirer à ce que vient de dire Julien Rouget. Par contre, sur peut-être un petit bémol sur le fait que toutes les agricultures ou toutes les façons de voir l'agriculture ne sont pas forcément représentées ou de manière aussi importante dans ce salon. Donc c'est aussi une vision qui peut être parfois tronquée de ce qu'est l'agriculture à ce moment-là.
Comment est-ce que vous qualifiez, Julien Rouget, la crise agricole actuelle? On a le sentiment que c'est une crise d'abord qui dure tant et si bien que ce serait même plus une crise, que c'est une crise multifactorielle hein, qui a à voir avec le statut, la reconnaissance, le revenu, les modèles, la transmission. C'est quoi la crise agricole? Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que vous la qualifiez en quelques mots?
La crise agricole, effectivement, elle est multifactorielle. Elle vient finalement de politiques publiques qui ont rarement su planifier l'agriculture à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui se sont succédés, mais qui ont eu des objectifs et des politiques publiques extrêmement différentes, et qui nous conduisent à avoir des modèles agricoles qui sont basés finalement sur un accompagnement public, mais qui nous placent en même temps sur des modes de commercialisation vis-à-vis d'autres pays sur lesquels on n'a pas les mêmes normes, pas les mêmes enjeux. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où on a cette exigence française d'avoir une agriculture de qualité, tracée, la plus saine et la plus sûre possible pour nos concitoyens. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Mais en même temps, on n'a pas créé les conditions, l'État n'a pas créé les conditions pour que cette agriculture puisse prospérer et puisse vivre dignement, et que les agriculteurs qui font cette agriculture puissent vivre dignement. On se retrouve en concurrence avec d'autres pays, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Et donc là, on est à un tournant où, en plus d'avoir ces difficultés structurelles, on s'est retrouvé face à des difficultés sanitaires et climatiques majeures sur 2024 qui sont venues exacerber cette crise structurelle qui était sous-jacente. Et donc là, en fait, la crise a explosé sur tous les sujets, sur le besoin de reconnaissance, sur le besoin d'accompagnement, sur un besoin qu'on peut entendre de simplification, sur un besoin de revenus et plus globalement sur un besoin d'avoir un cap en termes d'agriculture et qu'on nous dise à horizon 2050, qu'est-ce qu'on attend de nous ?
Tanguy Martin, vous partagez le même diagnostic. On vient d'entendre que l'agriculture est à un tournant, mais j'ai envie de dire qu'on entend ça pratiquement chaque année, si bien que c'est une discussion et un débat circulaire à la fin.
Non, pas forcément, parce que cette crise, elle vient de très loin. En fait, on est héritier, on est à la fin d'un cycle. On est à la fin du cycle qui a commencé avec la modernisation agricole dans les années 1960, même peut-être à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui a fixé quand même un cap, une vision pour l'agriculture, qui a plutôt fonctionné. C'était libérer des bras pour l'industrie, donc moins d'agriculteurs, plus de productivité, etc. Et en fait, on arrive à la fin de ce cycle, et effectivement, on manque d'une vision claire pour le cycle prochain. Nous, à Terre de Liens, mais on n'est pas les seuls, on pense qu'il y a une nécessité de changement de modèle, et que la crise naît du fait que les réponses politiques à ce changement de modèle ne viennent pas. Et donc, on continue les vieilles recettes. Et nous, là, finalement, dans ce moment politique et médiatique du Salon de l'Agriculture, nous, on arrive avec un rapport. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que 43% des terres en France sont destinées à l'export. C'est-à-dire qu'on pourrait être autonome, autosuffisant, autoconsommateur de ce qu'on produit en France, mais on a choisi de le produire en masse, de l'industrialiser. Et quand on veut écouler quelque chose en masse, on est obligé de l'écouler sur des grands marchés et donc sur des marchés d'export. Et c'était une solution qu'on a choisi de mettre en œuvre dans les années 1960. D'ailleurs, de manière pas forcément démocratique. Je pense pas qu'on ait vraiment demandé. Je pense pas qu'il y ait un Français qui ait voté à une élection en se disant « Tiens, je vais voter pour tel candidat parce que ça va aller à l'export ». Je pense que ça a jamais été un vrai enjeu politique. Par contre, c'est une politique majeure. Il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans pour ça de nos impôts. Cette crise, elle est le signe que cette politique continue en roue libre pour répondre à des problèmes qui n'existent plus, qui sont des problèmes du siècle dernier, et avec un manque de volonté d'engager un changement de système et de se dire peut-être que vouloir continuer à vendre toujours plus, produire toujours plus, mais on ne sait plus trop pourquoi, on ne sait plus trop pour qui, n'a plus vraiment de sens aujourd'hui.
On va revenir à ce rapport et à ces chiffres que vous mettez en lumière, Tanguy Martin, mais un mot d'abord justement sur les solutions politiques apportées depuis un an. La loi d'orientation agricole a été définitivement adoptée jeudi 20 février après un vote du Sénat dans l'après-midi. Quel est l'esprit de la loi, Julien Rouget ? Beaucoup disent que cette loi, elle acte le fait que l'agriculture prend désormais le pas sur l'écologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On donne la priorité aux agriculteurs bien plus désormais qu'aux avancées en matière d'écologie ?
Alors premièrement, ce qui est le plus frappant dans ce texte, c'est que à la base, il n'était pas prévu de parler de souveraineté alimentaire et certainement pas parler non plus de ces questions sur la dépénalisation de certaines infractions, les ouvrages hydrauliques. On est vraiment sur un texte, et c'est important que tout le monde le comprenne, qui a été créé suite aux états généraux qu'on a eus sur l'installation-transmission. Et donc avec une volonté d'apporter des premières réponses pour installer plus d'agriculteurs et répondre au pic démographique qu'on a et à toute cette population agricole qui va partir à la retraite. Et donc avec une structuration sur l'orientation, sur la formation agricole, sur des campagnes de promotion pour attirer toujours plus de profils vers les métiers de l'agriculture, et avec une structuration sur l'accueil, sur l'accompagnement de tous ceux qui veulent rentrer et sortir du métier.
La fameuse simplification de l'installation.
Entre autres. Et finalement, ce texte est arrivé, sorti du Conseil d'État avant d'arriver à l'Assemblée nationale, au moment où les crises ont complètement éclaté, sur le début d'année 2024. Et à ce moment-là, finalement, l'État a fait le choix, et nous étions défavorables à ça, mais voilà, c'est comme ça, l'État a fait le choix de se dire, on a un texte, un véhicule législatif, comme on l'appelle, qui va arriver à l'Assemblée nationale. Et donc, on en profite pour rajouter des sujets de revendication des agriculteurs qui sont sur le terrain à ce moment-là.
On précise effectivement qu'entre les deux, entre ce moment de la sortie du Conseil d'État et le vote du texte, il y a eu une crise importante il y a un an environ.
Tout à fait, exactement. Une mobilisation très importante des agriculteurs partout en France, des blocages, des actions diverses et variées. Ça a même commencé à l'automne avec le retournement, et tous ceux qui nous écoutent pourront s'en souvenir, le retournement des panneaux aux entrées de communes, donc qui avait commencé le début des mobilisations, et après sur des actions plus fortes, plus musclées, qui avaient conduit quand même le gouvernement à pouvoir réagir à ce moment-là.
Mais donc il fallait bien répondre à la mobilisation ?
Il fallait répondre à la mobilisation. Mais on le sait, quand on mélange tous les sujets dans un même texte et dans un même débat, on finit par en oublier l'essence même du texte initial. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je me permets de le rappeler, le texte initial, il était bien fait pour accompagner l'installation, la transmission, donc vraiment dans cet objectif-là. Ok, le gouvernement en profite, rajoute des notions de souveraineté alimentaire en introduction, modifie du coup l'écriture du code rural, parce que ce premier article, il est vraiment une réécriture du code rural, donc sur la souveraineté alimentaire, sur la sacralisation de l'agriculture, entre guillemets, et puis toute une partie sur des revendications des agriculteurs en termes de simplification et autres. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, ce qui ressort et ce qui est ressorti, ça n'est que cette dernière partie. Sur ces mesures de simplification, sur les ouvrages hydrauliques, sur la dépénalisation de certaines infractions, en faisant oublier complètement tout le reste du texte. Donc ça, c'est vraiment pour le coup préjudiciable, on trouve, pour nous, parce que ça élude complètement toutes les autres questions et toutes les avancées qu'on peut avoir sur des questions de formation, sur des questions d'accompagnement des agriculteurs, de social et autres. Et donc déjà, ce premier point, pour nous, il nous choque, il nous marque, et c'est dommage, et c'est pour ça qu'on se permet de le remettre au devant de la scène avant de rentrer un peu plus dans ces articles qui font tant parler.
Alors justement, sur les articles qui font tant parler, et il en est un qui élève l'agriculture au rang, je cite, d'intérêt général majeur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Tanguy Martin?
Rien. C'est de
la réponse est claire.
Là, c'est de l'affichage politique, vraiment pur et simple. Ça n'a aucune portée juridique. D'ailleurs, c'est attaqué au Conseil constitutionnel, il me semble. On est vraiment dans de la politique d'affichage. Et je reviens sur ce que je disais juste avant, qui est de dire qu'il n'y a pas de vraie réponse qui est portée dans ce texte aux crises. Et là-dessus, la LOA, c'est vraiment un rendez-vous manqué, parce qu'effectivement, il s'agissait de donner un cap pour retrouver de l'envie de devenir agriculteur, redonner la capacité d'avoir un chemin pour ce qu'on appelle le renouvellement des générations, hein, puisqu'il faut bien garder en tête que sur les 10 dernières années, on a encore perdu 80 000 équivalents de temps plein de travail agricole. Donc c'est un plan de licenciement massif, en fait. On perd énormément d'emplois. Or, en fait, on a besoin de gens pour nous nourrir, on a besoin de gens pour travailler sur les terres, on a besoin de gens pour prendre soin des terres. Et là, donc, le compte n'y est pas du tout. On sait que la population agricole est vieillissante. Donc, c'est vraiment un sujet qui est de première urgence. Et rien. Vraiment, rendez-vous manqué. Et par contre, on passe un temps infini à discuter de choses qui, en fait, n'ont aucune portée juridique, qui sont juste là pour essayer de calmer une colère, mais sans apporter de véritables réponses aux causes de cette colère. Les causes de cette colère, c'est le revenu. Casser des normes, ça ne va pas permettre d'augmenter le revenu des agriculteurs. C'est du pur affichage.
Julien Rouget, vous êtes d'accord, rien de rien dans cette agriculture élevée au rang d'intérêt général majeur. Pas même des recours administratifs facilités, comme le disent, comme le prétendent ses défenseurs.
Alors c'est surtout, il y a une part d'affichage derrière quand on parle de consacrer l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Mais au final, il y avait quand même une forme de besoin aussi des agriculteurs d'avoir ce message. Alors oui, il n'a peut-être pas de portée juridique, mais une des premières revendications des agriculteurs sur le terrain, c'était reconnaissance et simplification. Revenu, c'est un sujet qu'on a depuis 10 ans ou plus et qui perdure et qui est toujours là et qui était là dans les mobilisations. Mais en plus, c'est venu se rajouter ces besoins de revendication et de simplification. Et en faisant ça, le gouvernement, entre guillemets, s'achète bonne conscience en se disant on fait cet affichage-là pour dire qu'on consacre l'agriculture et qu'on y attache une importance. Il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Bien sûr que sur cet élément-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que derrière, dans les 10 prochaines années ou plus, les politiques publiques mettent en œuvre ce qu'on pourrait appeler justement la souveraineté alimentaire et qui est définie dans ce texte. Mais pour le coup, il n'y a pas, rien de rien, mais il ne faut pas lui prêter ce texte des ambitions qui ne sont pas les siennes, en fait. Et c'est surtout ça, il y avait trop d'attentes sur ce texte vis-à-vis du scénario initial, et y compris le gouvernement. On a fait un texte salvateur pour tous les agriculteurs, alors que ça n'a jamais été l'ambition de départ.
L'autre article qui fait débat, hein, Tanguy Martin, c'est la dépénalisation de certaines infractions liées à l'environnement. C'est un article clivant, hein, révisé notamment par le Sénat, qui prévoit une mesure de dépénaliser très largement certaines infractions lorsqu'elles ne sont pas commises, je cite, de manière intentionnel au profit d'une simple amende administrative de 450 euros maximum. Comment vous analysez là encore cet article et cette décision politique ?
C'est absolument catastrophique. C'est catastrophique pour deux raisons. Le premier, c'est parce que ce texte était encore une fois censé apporter des solutions pour renouveler les générations agricoles. Que par exemple, nous on travaille beaucoup sur les questions de l'accès aux terres. Vous pouvez pas devenir agriculteur si vous accédez pas aux terres. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Ce texte qui est censé parler de ça, il n'y a aucun article, rien là-dessus. La ministre a été interrogée au Sénat là-dessus, elle a dit « Ah oui, effectivement, il faudrait le faire, mais je ne peux pas m'engager sur un calendrier. » Alors que la Macronie nous promet depuis 2018 un texte là-dessus. On a passé des heures et des heures à travailler sur des propositions, des réunions, des concertations là-dessus. Rien du tout. Par contre, on nous met des choses qui viennent de nulle part et qui ne répondent vraiment aucun problème. C'est-à-dire, c'est pas ça, ça ne va résoudre aucun des bouts de la crise. Et si on dit que répondre à la colère des agriculteurs, c'est leur donner le droit de tout casser, y compris la fertilité de leurs champs, la fertilité de nos terres, y compris leur santé, ça n'a aucun sens. C'est vraiment de la démagogie de très très bas étage, et en même temps, ça met en péril notre santé, la santé des sols. Encore une fois, même d'un point de vue d'agriculteur, moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut défendre ça, c'est assez mortifère.
Julien Rouget, pour vous aussi, c'est de la démagogie de bas étage, cette dépénalisation de certaines infractions liées notamment à l'environnement.
Moi, je voudrais surtout revenir au fondement de cet article ou au fondement de certains de ces articles. Quand on regardait les mobilisations agricoles et les revendications qui étaient faites, et notamment, on pourrait parler aussi de l'OFB, on avait...
L'Office français de la biodiversité.
Pardon, oui, c'est vrai, l'Office français de la biodiversité. On avait des retours d'agriculteurs plus ou moins hétérogènes qui nous disaient « on a l'impression d'être des bandits, des délinquants vis-à-vis de l'environnement ». Et ce qu'on veut, c'est que on soit accompagné, aidé, et que les contrôles soient bienveillants quant au respect de toutes ces normes. Quand on regardait les réglementations sur les haies, qui a été le symbole un peu repris par tout le monde, on a bien vu qu'il y avait un ensemble de réglementations et de règles à respecter qui étaient quand même relativement complexes pour un agriculteur d'arriver à toutes les respecter dans les temps impartis, en fonction des météos, etc.
Le fameux poids des normes.
Exactement. Et donc, c'est parti de là. Vraiment cette volonté d'avoir cette bienveillance. Et nous, ce qu'on dit chez Jeunes Agriculteurs, c'est ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est que on soit mieux accompagné et que lors de ces contrôles, le premier contrôle, on ait ce fameux droit à l'erreur et cette pédagogie qui soit faite vis-à-vis des agriculteurs pour les accompagner dans leur activité. Mais certainement pas non plus de les autoriser à tout faire, n'importe comment et pour tout. Je le disais tout à l'heure, on a cette agriculture que tout le monde nous envie. C'est notamment et aussi parce qu'on a des cahiers des charges et des règles qu'on respecte. Sinon, on n'aurait pas cette agriculture de qualité. Et on souhaite continuer à la respecter et à l'élever. Ce qu'on veut, c'est que, en termes de considération, en termes d'approche, en termes d'accompagnement, il y ait cette forme de bienveillance et de reconnaissance qui a été traduite comme ceci par le législateur derrière.
Vous venez de parler de l'OFB, hein, l'Office français de la biodiversité. C'est un office attaqué, critiqué par le pouvoir politique actuellement. Hein. Laurent Wauquiez, par exemple, réclame sa dissolution dans une lettre adressée aux agriculteurs par le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Panécouc, et son conseil spécial, donc Laurent Wauquiez, le 7 février dernier. Les deux élus écrivaient que l'OFB était une, je cite, coalition d'idéologues qui autant empêchait de travailler et de vivre dignement les agriculteurs. Tanguy Martin, est-ce que vous êtes d'accord avec ces saillies? Ça vous fait souffler?
Oui, ça me fait souffler. On fait les gorges chaudes sur ce que nous raconte Trump en ce moment, mais on est à peu près au même niveau, peut-être même un cran en dessous. On est vraiment sur ce truc d'affichage, sur ces politiques de bouc émissaire. L'OFB est un bouc émissaire parce que, encore une fois, on ne veut pas s'attaquer aux vrais problèmes. Il y a des problèmes d'inégalité et de revenus extrêmement importants chez les agriculteurs.
Je reste un instant quand même sur
l'OFB. Non, mais j'arrive dessus. On est là-dessus. Et plutôt que de traiter ces problèmes-là, plutôt que d'aller vraiment là où il y a des problèmes, on regarde à côté et on dit « il y a un problème avec l'OFB ». On dit « ah bon, ok, il y a un problème avec l'OFB ». Le ministère charge une mission flash, donc il y a des statistiques qui sont faites, on regarde, qu'est-ce qui se passe? On dit il y a trop de contrôle et il y a trop de double contrôle. Donc contrôle, 10% des fermes, donc un contrôle tous les 10 ans. Double contrôle, un double contrôle tous les 100 ans. Nombre de contrôles problématiques sur le terrain, je ne sais plus, je crois que c'était 0,05% des cas. Où est le problème? Où est l'urgence? On a 18% d'agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a une crise climatique qui nous arrive, qui va faire des ravages partout. Et là où je rejoins Julien Rouget, c'est la demande, c'est comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs? Comment est-ce qu'on accompagne l'agriculture vers un changement de modèle qui va nous nourrir, protéger l'environnement, s'adapter au réchauffement climatique, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, maintenir la biodiversité? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Oh, regardez ces méchants fonctionnaires !» Merci, mais c'est quand même incroyable.
Julien Rouget, c'est vrai que quand on regarde objectivement les chiffres, quand on regarde objectivement les remontées d'informations, on a du mal à comprendre ces attaques politiques à l'encontre de ces fonctionnaires qui font quand même leur travail d'une façon efficace et propre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, on a vu hein, les chiffres de ces missions flash. Ce qu'on a constaté, c'est que nous, on avait des remontées d'adhérents, pas sur la forme, mais sur le fond. Sur la forme.
Oui, mais les chiffres, les statistiques, là, elles sont nettes pour le coup.
Soit, mais pendant la crise, ça reste quand même un des sujets clivants qui est remonté. Pas sur le fait qu'il ne faut pas être contrôlé, pas sur le fait qu'ils ne font pas leur travail, sur des questions de forme, et je le disais, sur des questions d'attitude, et cette célèbre phrase qui est aussi ressortie par certains agriculteurs, que quand ils venaient dans les cours de ferme, on avait plus l'impression que c'était des cow-boys qui venaient contrôler. Et je pense que ça reboucle avec la discussion qu'on a eue juste avant, en fait, sur cette question d'accompagnement, de sensibilisation, et puis tout simplement de reconnaissance, en fait. Les agriculteurs, nous, les remontées qu'on en a eues de notre côté de gens qui ont pu être contrôlés et qui nous font cet état de fait, c'est le sentiment qu'en fait, ils avaient commis un crime et que des agents armés venaient sur leur exploitation comme si c'était vraiment, pour le coup, des dealers ou autres.
Mais il faut de l'accompagnement, certes, mais il faut également des contrôles, parfois.
Bien sûr, mais ces agents ont-ils besoin d'être armés quand ils viennent dans des exploitations agricoles pour contrôler une infraction environnementale? C'est la question qu'on a posée.
Je voudrais vous faire entendre la voix de la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard. Elle s'exprimait le 21 février dernier dans Les 4 Vérités.
Il faut réhabiliter l'acte de production, d'autant que nous sommes dans un monde qui est instable. Et finalement, reconquérir notre souveraineté alimentaire suppose effectivement de produire. Sinon, quelle dette alimentaire va-t-on laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'il y aura comme alimentation dans l'assiette de nos enfants? Donc oui, la France, grande puissance agricole, doit reconquérir son alimentation. Il y a trop de secteurs dans lesquels nous sommes aujourd'hui en déficit de production. On peut produire, on doit produire davantage sans pour autant sacrifier à la biodiversité, au respect de l'environnement ou je ne sais quoi.
La ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, c'est nouveau la souveraineté alimentaire associée à ce ministère. Alors Julien Rougy, c'est quoi? Comment est-ce que vous définissez cette expression-là?
Alors pour le coup, pour nous, la souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'un pays à produire sur son territoire une alimentation sûre, saine, durable et de qualité, accessible pour les consommateurs tout au long de l'année. Voilà comment on la définit très simplement.
Est-ce que vous la définissez de la même façon, Tanguy Martin? J'ai sous mes yeux le rapport justement qui est apparu et qui est signé Terre de Liens. Je lis « Souveraineté alimentaire, un scandale made in France ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on nous parle de la préserver, on nous parle de la défendre et que nous, on pense qu'on l'a perdue. On l'a perdue. En tout cas, une des dimensions importantes de la souveraineté alimentaire qui est, mais pour le coup je rejoins assez les propos de Julien Rouget, d'être en capacité de produire notre alimentation à nos conditions, on l'a perdu puisqu'on a décidé d'exporter, donc 43% de nos terres produisent pour l'exportation. Et en face, quand on exporte, ça veut dire qu'on importe. Et donc on importe l'équivalent de 10 millions d'hectares de production. Donc voilà, la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est pour la France quelque chose... C'est un mythe. Après, comment on l'a défini? Alors, on a entendu plein de choses, plein de définitions. Moi, je pense qu'il faut revenir à une histoire et au droit. L'histoire, c'est quoi? La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été forgé dans les années 2000 par un mouvement de paysans international qui s'appelle la Via Campesina et qui le définit comme la capacité des populations à définir leur propre modèle alimentaire. Et donc, à définir comment ça doit être produit et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger. La deuxième définition, c'est que ça a été mis dans un texte onusien qui s'appelle la Déclaration des droits des paysans et des populations vivant en milieu rural, qui reprend cette définition de démocratie alimentaire finalement, qui est de dire la souveraineté alimentaire, c'est la capacité à définir notre propre modèle alimentaire. Et nous, on n'a rien à redire, on n'a rien à rajouter à cette histoire-là. Par contre, Madame Genevard a cru bon de devoir rajouter à cette histoire-là et redéfinir dans la loi française la souveraineté alimentaire, en contradiction avec le texte onusien que la France a elle-même ratifié. On a beaucoup parlé de marcher sur la tête, là on marche quand même pas mal sur la tête, d'autant plus que la définition qui nous est donnée, elle est de nourrir les Français, exporter pour maintenir une balance commerciale et assurer la sécurité alimentaire mondiale. Assujetti, on a entendu ça hier, produire pour exporter. Mais on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça n'est pas possible.
Le sourire, c'est mieux formulé, effectivement.
Oui.
Mais en vous écoutant tous les deux, parce que vous pointez du doigt la ministre de l'Agriculture et la Souveraineté Alimentaire et notamment sa définition, mais en vous écoutant l'un après l'autre, vous n'avez pas la même définition de la souveraineté alimentaire. Julien Rouget, vous expliquez que c'est d'abord un concept qui est tourné sur la production agricole, et donc que ça implique des exportations, tandis que vous, Tanguy Martin, j'ai l'impression que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la définition pour chaque collectivité de son propre modèle agricole et alimentaire et la démocratie qu'il faut associer à cela. Julien Rouget, peut-être une définition sur cette dernière définition qui vient d'être donnée.
Non, mais juste un point. Vous m'avez prêté des propos qui ne sont pas les miens.
Non, c'est mon interprétation de votre définition, corrigez-moi si je me trompe.
Alors, je vais la reformuler parce que pour le coup, moi, j'ai pas parlé d'exportation. J'ai bien dit notre capacité, nous, la France, à produire l'alimentation consommée par nos citoyens. Et aujourd'hui...
Donc c'est l'autonomie.
C'est l'autonomie alimentaire. Être souverain, pour nous, tel qu'on le définit, mais c'est une définition qui nous est propre, mais pour nous, c'est notre capacité à pouvoir produire sur le sol français l'alimentation que vont consommer les concitoyens. Mais clairement, cette souveraineté, on ne l'a pas. Quand on regarde les chiffres sur les différentes filières, et c'est là où on se rejoint, on ne l'a pas. Quand on importe un poulet sur deux, c'est le chiffre qui est souvent repris, mais on pourrait prendre beaucoup de filières comme ça, notamment sur l'arboriculture et sur le maraîchage, où on a beaucoup d'exportations, beaucoup de commerce international, mais où en fait, on ne s'est jamais dit qu'on voulait être souverain sur un secteur d'activité en particulier, en se disant par exemple que sur les fruits et légumes, on voulait être autonome et souverain, on ne se l'est jamais dit, on ne l'est pas. Il est temps de se poser ces questions-là, parce que quand on voit d'un côté les États-Unis, la Russie, la Chine, qui eux n'hésitent pas une seule seconde à faire du protectionnisme sur leur industrie, sur leur agriculture, et pour le coup à placer les intérêts de leur nation avant les intérêts de tous les autres pays, y compris de leurs alliés. Il est temps que nous, France et nous, Européens, nous nous posions ces questions-là sur la base de la vie de tout le monde, c'est l'alimentation. Et aujourd'hui, on doit faire ce choix d'être souverain dans des filières qui sont les plus importantes pour nos concitoyens.
Je continue quand même de tirer le fil de ma petite obsession sur les exportations. Est-ce qu'on exporte trop aujourd'hui, Julien Rouget ?
Tout dépend de l'objectif, en fait. C'est toujours pareil. Est-ce que l'objectif, c'est d'assurer du commerce international ? Parce que nous, de notre regard sur ces dernières années, on a fait le choix de se spécialiser dans certaines productions et d'assumer plus ou moins tacitement d'importer certaines autres productions. Je pense notamment à tout ce qui est protéines végétales. Et où, pour le coup, on s'est dit, non, chez nous, on ne produit pas de protéines végétales, on assume de les importer d'autres pays. Et nous, on se concentre sur la céréale, sur certaines productions animales, quitte à laisser partir certains pans de transformation et d'économie. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'on fasse travailler les filières françaises et qu'on puisse valoriser cette exception. Et puis surtout, ce qu'on craint, c'est qu'on fasse comme l'industrie en France, c'est qu'on se dise finalement, le concitoyen, quand on regarde l'acte d'achat, il va au moins cher. Donc, on continue à importer à bas prix. Et d'ailleurs, les grandes distributions nous le disent. Continuons à pouvoir commercer avec les pays parce que c'est ce qui nous permet de faire des produits alimentaires à bas prix, parce que c'est ce que le consommateur veut. On dit non, en fait, on a cette exception française. Il faut être capable de la valoriser et de prioriser les filières. Mais c'est un objectif qu'on doit se donner.
Tanguy Martin, quand on regarde pourtant certains produits bien précis, je pense au lait, je pense au blé, je pense à d'autres produits, le système d'exportation, le commerce international dans son ensemble, ils ont sur le tissu agricole local et national des effets importants et des effets néfastes parfois.
Souvent même. Prenons le blé, effectivement. Le blé tendre, c'est ce qui sert à faire du pain. On fait de la farine avec du blé tendre, c'est ce qui sert à faire du pain. On est autosuffisant à 200%. On peut exporter du blé, c'est génial. Mais ce blé, il est produit avec quoi ? Il est produit avec des engrais. Ces engrais, ils sont produits avec quoi ? Ils sont produits avec du gaz naturel liquéfié. On n'en produit pas en France. Donc, cocorico, mais en fait, ça marche pas. Pas de chance. En plus, ce gaz naturel, on le produit surtout en Russie. Et donc, en fait, on est obligé de l'acheter en Russie. Donc, on voit bien que c'est compliqué. Prenons le blé dur. Donc le blé dur, c'est ce qui sert à faire des pâtes. On exporte 66% du blé dur qu'on produit, on importe 75% des pâtes qu'on consomme. Vous regardez là, dans votre placard, votre paquet de pâtes, et bien c'est peut-être fait avec du blé français, mais transformé. Un produit avant d'arriver dans votre assiette, il fait 1200 km en moyenne. Ça n'a strictement pas de sens. Surtout quand on commence à parler de réchauffement climatique, etc. Si on revient sur le tissu local, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, ça veut dire quoi ? Pour faire ça, il faut concentrer toute la production à un endroit. Donc là, par exemple, nous, dans notre rapport, on parle de la plaine de l'Aunis. Donc on fait beaucoup de blé tendre dans la plaine de l'Aunis. Ça tombe bien, on a le port de la Palisse à La Rochelle, on peut l'exporter, c'est génial. Nous, on accompagne des gens qui veulent s'installer aujourd'hui dans la plaine de l'Aunis pour nourrir localement. Donc, des fois, ils veulent faire des céréales, des fois, ils veulent aussi faire de l'élevage. Parce que si on veut pas utiliser des engrais minéraux qu'on importe de Russie, il faut des déjections animales. Pour faire des déjections animales, il faut des animaux, bizarrement. Mais sauf que, vu que toutes les surfaces sont dirigées pour produire pour l'export, il n'y a pas d'animaux. Et les gens que nous, on accompagne, ils ont un mal fou à accéder à la terre pour nourrir en local, alors que on a la ville de La Rochelle qui a un projet alimentaire territorial qui demande de l'alimentation locale, très difficile à fournir parce que ces gens n'arrivent pas à s'installer. Là, nous, dans le rapport, on voulait faire témoigner des gens. On a fait des conférences de presse, on voulait faire témoigner des gens. Les gens me disent « Ah non, j'ai déjà réussi à m'installer. Si je témoigne, je pourrais pas avoir les quelques hectares qui me manquent. parce que on va me bloquer si je dénonce ce système-là. C'est vraiment problématique.
Julien Rouget, une réaction. Et au-delà, est-ce que vous défendez vous-même la relocalisation de certaines filières agricoles, justement pour parer à cette ultra-spécialisation que vous décriviez un peu plus tôt ?
Alors, pour nous, ce qui est important, c'est déjà de se fixer un cap à 2050, je le disais, sur planification agricole, et de se dire quelles filières, pour nous, sont prioritaires et sur lesquelles on veut devenir plus autonome, plus souverain. Ça, c'est important. Et on doit le faire vis-à-vis des trajectoires de réchauffement climatique. Parce que si on le fait simplement avec le climat tel qu'on a aujourd'hui, clairement, on va se planter. Donc, on a besoin de se dire quelle agriculture, quelle autonomie on veut et quel climat on aura en 2050 sur les différentes régions. Et quand on a ça, on est capable de se projeter sur des bassins de production. Parce que l'agriculture qu'on fait aujourd'hui en Occitanie ou en Haute-France, ce ne sera pas celle qu'on fera demain en 2050. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, de planifier cette agriculture à horizon 2050 en fonction des besoins des concitoyens et du changement climatique. Pour nous, c'est la priorité absolue.
La relocalisation, Tanguy Martin, comment elle s'effectue ? Comment est-ce qu'on la rend concrète ? C'est difficile à obtenir là aussi ?
Bah, c'est peut-être pas si difficile à obtenir que ça.
Alors dites-nous.
Parce que aujourd'hui, 60% des gens qui veulent devenir agriculteurs, c'est des gens qui ne sont pas issus de l'agriculture, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et c'est des gens qui veulent aujourd'hui s'installer dans des modèles agricoles qui sont plus écologiques et qui sont plus nourriciers pour le territoire. Et ça, c'est génial. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire avec Terre de Liens, c'est d'accompagner ces gens-là pour trouver des terres, pour pouvoir devenir demain agriculteur. Il se trouve que la LOA ne va pas dans ce sens-là, que le ministère ne veut pas aller dans ce sens-là, au contraire de tous les discours politiques, mais les faits sont têtus, ils ne veulent pas aller dans ce sens-là. Nous, nous allons continuer à combattre, nous allons continuer à accompagner les agriculteurs pour s'installer et pour développer cette agriculture plus écologique, plus nourricière, moins exportatrice.
La LOA, c'est la loi d'orientation agricole. Je le rappelle, Julien Rouget, en quelques mots.
Et juste, ce qui me paraît important de pouvoir ressoulever, c'est qu'effectivement, cette loi d'orientation, elle a commencé à amorcer certains sujets, commencé à apporter quelques réponses. Mais là où on se rejoint, c'est qu'en fait, il reste des grosses thématiques sur lesquelles on doit travailler. Le foncier, c'est une thématique prioritaire. La PAC, c'est une thématique prioritaire et sur laquelle on ne doit pas attendre la puissance publique. Nous, organisations professionnelles, on doit avancer sur ces sujets.
Merci à tous les deux de cette discussion, de ce débat optimiste d'ailleurs en fin d'échange. Julien Rouget, je rappelle que vous êtes éleveur charolais, viticulteur en Charente-Maritime, vice-présidente des JA, les jeunes agriculteurs, et Tanguy Martin, porte-parole du mouvement citoyen Terre de Liens. Merci à vous deux.
Merci. Merci.